Vous êtes sur Radio sans chaîne. Bienvenue à tous en ce jeudi 15 mars avec comme toujours, comme tous les jeudis, en compagnie de Patrice et Sergio à la technique. Et aujourd'hui, nous allons parler de Karl Marx. Et nous avons comme invité, et j'ai un grand honneur de t'avoir, Jean Batou.
Merci, c'est pas un honneur, c'est un plaisir.
Un plaisir, Jean Batou dans nos studios de la Radio Sans Chaîne. Nous allons parler bien sûr de Karl Marx. Karl Marx, on va fêter ses 200 ans de sa mort cette année. Et on va déjà commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours professionnel ?
Peut-être juste un mot, une dédicace à la Radio Sans Chaîne, parce que Marx a écrit que les prolétaires n'avaient que leur chaîne à perdre. Donc vous les avez déjà perdus avec la Radio Sans Chaîne et un monde à y gagner. Donc des chaînes à perdre, un monde à y gagner, c'est peut-être vous. Voilà. Alors moi, ce n'est pas très important. Je suis né à Genève. De la génération des tout jeunes qui ont vécu les années post-68 à Genève. Donc moi, j'ai ouvert les yeux sur un monde qui bougeait, mais énormément, avec énormément d'espoir de changement. Et malheureusement, on a dû vivre toute une série de défaites. Je pense que le fait qu'on se soit battu, c'est une chose importante. On ne se bat pas pour gagner, on se bat pour vivre. Mmh. Et voilà, donc, j'ai étudié l'histoire économique et finalement, par le plus grand des hasards, après avoir enseigné au cycle d'orientation, avoir fait différents trucs dans ma vie, je me suis retrouvé professeur à l'Université de Lausanne d'histoire contemporaine.
Et est-ce que tu as des hobbies ?
Alors, côté hobby, j'ai été absorbé par la politique. Ah. Et la politique, c'est un hobby qui mange énormément de temps. Alors, la politique, ce n'est pas la politique institutionnelle ou parlementaire, c'est la politique que chacun fait dans sa vie quotidienne, en s'engageant, en étant dans la vie associative, en militant dans un syndicat. C'est une manière de vivre, une manière d'exister, et il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de relations humaines qui se tissent dans ce hobby-là. Alors, les hobbies plus personnels, j'aime la musique, j'aime la marche, j'aime voyager.
T'aimes lire aussi ?
J'aime lire, évidemment. Mais ça, c'est un peu une obligation.
Je crois aussi.
Je ne l'ai pas mise en avant.
On va aller directement au vif du sujet. On va parler de Karl Marx. Il est né le 5 mai 1818 à Trèves. C'est où Trèves ?
C'est dans l'Allemagne actuelle. À l'époque, il n'y avait pas d'Allemagne unifiée. Donc Marx, dans le fond, il naît dans une famille de la petite bourgeoisie. Son père, la famille de son père est d'origine juive, mais ils ont été convertis au protestantisme. Et c'est un homme qui va s'intéresser à tout. En fait, c'est surtout un type qui a une immense fenêtre ouverte sur le monde et qui s'intéresse à tout ce qui est autour de lui. Alors, son père va l'envoyer à l'université. D'abord, il va aller à Cologne. Là, on est en pleine période romantique. Donc, le gars, il s'intéresse à tout, mais il s'amuse aussi beaucoup. Il fait toutes sortes de frasques avec des étudiants. Je crois même qu'il fait un duel au sabre. Mm-hmm. Et son père se dit, c'est pas bon, Cologne, on va l'envoyer à Berlin, en Prusse. Là, c'est extrêmement strict et il va faire des études de droit. Et là, il découvre la philosophie de Hegel, qui est un grand philosophe qui vient de mourir. Et tous ses disciples sont des gens qui, dans le fond, voudraient donner à l'élan de la Révolution française une véritable réalité. C'est-à-dire, la Révolution française, c'est la liberté, mais c'est aussi la justice sociale. Et ils sont obsédés par cette bataille. C'est ce qu'on pourrait appeler, on les appelait les jeunes hegeliens, on appellerait aujourd'hui des contestataires. Et c'est Marx et son père meurent, et dans le fond, au lieu de faire du droit, il va faire de la philosophie.
Et il me semble que il y a eu plusieurs enfants, il me semble, non ?
Alors, bon,
il est d'une famille de 8 enfants, je crois, non ? De sa deuxième famille, hein, c'est ça ?
C'est-à-dire que Marx, lui, va avoir plusieurs enfants de sa femme Jenny. Disons, avant d'avoir lui-même des enfants, après sa formation de philosophe, il devient un militant. Et il devient un militant parce qu'il n'accepte pas de se censurer. Et donc, il va aller en France, où il y a un peu plus de liberté qu'en Prusse. Là, il va être expulsé. Il va être expulsé en Belgique. Puis, il finira en Angleterre. Et il a des enfants dans des situations de misère, d'expulsion. Donc, c'est une vie très difficile. C'est une vie courageuse et difficile. Qui mène pendant ces années avant d'écrire avec Engels le manifeste du Parti communiste en 1848.
Exactement, oui. Et moi, j'ai vu le film. Le jeune Karl Marx. J'ai pas pu le voir jusqu'à la fin parce que je me suis endormi, mais il était très 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 passionnant. Mais c'était
Tu t'es endormi, c'est qu'il était pas passionnant.
Si, bah oui.
T'étais fatigué.
J'étais fatigué. Voilà. Bon, avec aussi toutes mes journées très remplies, mais c'est vrai que on découvre un jeune Karl Marx, comme tu viens de le décrire, et qui veut pas être censuré. Ça, c'est une chose qui était très importante pour lui. Et il a rencontré, il me semble, à un moment donné, une rencontre avec, que tu avais dit juste avant...
Engels,
voilà.
Voilà.
Et on peut parler un petit peu de Engels.
Alors, Engels, c'est le fils d'un propriétaire de filature en Angleterre.
Tout à fait, oui,
donc c'est un grand... c'est un capitaliste, son père.
Voilà, c'est ça.
Et dans le film, d'ailleurs, de Raoul Peck, le jeune Karl Marx, moi, je vous conseille quand même d'aller le voir, parce que si vous êtes bien reposé, vous verrez que vous arriverez jusqu'au bout.
Merci.
C'est plutôt sympa comme ça.
Je te remercie.
C'est sympa comme ça a été fait. Le Engels, c'est donc le fils d'un propriétaire de filature, mais c'est bien montré dans le film, il est tellement irrité contre le traitement des ouvriers, en particulier des ouvrières irlandaises,
ouais.
dans les filatures britanniques, parce que c'est vraiment l'esclavage,
oui,
qu'il va s'intéresser à la vie de la classe ouvrière, mais la plus pauvre, et en fait, il va tomber amoureux d'une Irlandaise, voilà. Mary Burns. Quand elle mourra, il tombera amoureux de sa sœur. Il y a un bouquin qui est sorti, Mrs. Engels. Et en fait, c'est très fascinant parce que ce sont des femmes qui sont des combattantes, des féministes, disons, on pourrait dire, avant l'heure, et qui vivent de cette lutte en contact avec les ouvriers. En fait, Engels va utiliser un peu cette ouverture, parce qu'il vient d'un tout autre milieu, pour écrire son premier bouquin qui est « La condition de la classe ouvrière ». En Angleterre, et qui est un bouquin descriptif, mais extrêmement décapant sur la misère humaine qu'est l'industrie britannique.
Mais il a été rejeté quand même au tout début par ses ouvriers et ouvrières. Il me semble qu'il a été très mal reçu. Hein.
Alors,
il venait de cette classe ouvrière. Il était, vu qu'il venait, son père était. Il avait
patron.
Patron. Et lui, c'est vrai que dans le film, c'est vrai que ça démontre très bien dans le film, hein, le jeune Karl Marx. Lui, il est passionné, il est contre son père.
D'abord, dans le film, Engels s'est montré comme un gars assez sensible, ce qui est vrai.
Oui.
Mais en fait, c'était une armoire à glace. C'était pas là dans le film, il est un petit peu plus fluet que Marx. C'était un peu l'inverse. Engels, c'est un type courageux. Donc, il est le fils du patron, mais il va dans les quartiers populaires et il est reconnu. Alors, je ne sais pas, c'est le film qui a romancé l'affaire comme ça.
Peu, hein. Oui, mais est-ce que
il y a du vrai.
Il y a du vrai.
Alors, il se fait casser la gueule, en fait.
Oui, c'est juste. Ouais. Au début. Il a même aimé.
Et puis, il a un bon, il dit, voilà, c'est le prix à payer pour... voilà. Mm-hmm. Mais les filles, elles l'intègrent parce qu'elles voient que c'est un type sincère. Et petit à petit, d'ailleurs Marx c'est pareil, Marx et Engels, ils se font leur place parce que c'est des intellectuels, probablement les plus brillants de leur époque, mais c'est des gens qui ont, comme, c'est des militants. Et en fait, ils sont en grande partie au service des combats de la classe ouvrière. Donc ils se font adopter, admettre, c'est pas immédiat. Les gens, ils sont normaux, ils vérifient, ils disent
que
c'est des faiseurs, etc. Non, ils voient que les gars, ils sont vraiment avec eux, et après, ils les intègrent.
Il y avait une chose qui m'avait interpellé, c'était que... j'ai un petit blanc, là. Ils se sont fait beaucoup rejeter, ces Karl Marx et Engels, par ces d'autres philosophes.
Alors ouais, il y a en fait...
Parce qu'ils se sont rencontrés avec d'autres,
oui.
Dans la réalité. Hein.
C'est, ça fourmille de gens qui réfléchissent.
Oui, voilà.
On est 50 ans après la Révolution française, 60 ans, etc. Donc... on est un peu dans une période où plein de gens réfléchissent pourquoi ces soulèvements populaires ne sont pas arrivés à imposer la justice sociale, pourquoi il y a un nouvel esclavage dans les entreprises industrielles, etc. Bon. Et en France, il y a Proudhon, qui est le philosophe économiste de renom parmi ceux qui critiquent radicalement le capitalisme. Et on n'appelle pas d'ailleurs ça le capitalisme, la bourgeoisie, l'industrie, etc.
Ouais.
Et Marx a un certain respect pour lui, mais il a des désaccords et il les exprime tout de suite. Alors Marx est un type qui a une ligne de conduite, c'est-à-dire c'est dire toujours ce qu'il pense, ne pas faire de la tactique en tapant sur le ventre de n'importe qui, c'est-à-dire quand il n'est pas d'accord, il le dit. Et des fois, il le dit avec une certaine ironie qui peut blesser ses interlocuteurs. Et bon, à mon avis, il avait raison dans ses critiques à Proudhon. Ceci dit, Proudhon, c'est un type dont il faudrait lire l'œuvre gigantesque parce qu'il y a des choses intéressantes à épuiser. C'est pas Marx qui... Vous savez, on a toujours pensé que quand Marx a critiqué quelqu'un, pour ceux qui se disaient marxistes, ils n'avaient même pas besoin de le lire. Ils pensaient que Marx l'avait critiqué, ça vaut pas comme ça. Moi, je crois que Marx faisait des critiques, mais il lisait. Donc, moi, j'incite plutôt à s'intéresser même aux auteurs qu'il a critiqués.
Parce qu'il faut bien expliquer que Karl Marx a écrit ce fameux livre
Tu penses auquel par rapport à Proudhon ou par rapport
non,
à...
Non, le, il est rouge, là. J'ai dans le... Malheureusement, il est dans mon
le
sac.
Le manifeste
ou... Oui, le manifeste. Ouais. Parce qu'il parle de l'ancienne Égypte, du capitalisme l'ancienne Égypte. Mais en fait, Karl Marx, il y a beaucoup de gens qui suivent ses idéologies, mais c'est des idéologies qu'il a repris de la vie.
Ouais.
C'est un peu ça. Oui.
C'est-à-dire qu'il pense que fondamentalement, il faut partir du monde de l'activité humaine réelle. C'est-à-dire l'être humain n'existe pas comme un individu, il existe collectivement dans une société où il a une activité pour manger, pour se loger, etc. Et cette activité-là, elle est dépendante des techniques qui existent, des rapports entre... ceux qui sont, disons, dominants dans la société, mmh. ceux qui sont dominés. Et il faut étudier ces sociétés. Et lui, il a en fait dit que depuis le début de l'histoire, il y a des luttes des dominés contre les dominances, qu'il a appelées les luttes de classe. Mm-hmm. D'autres parlaient aussi de luttes de classe avant lui. Et qu'au fil de l'histoire, à mesure que les techniques se développent, que la société s'enrichit globalement, les opprimés ont de plus en plus de force et d'intérêt à produire une société différente. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui toujours, d'ailleurs, il y a une immense classe de gens qui sont, dans le fond, condamnés à vendre leur force de travail. On n'y réfléchit jamais, mais quand on grandit, on n'a pas les moyens de vivre sans aller s'adresser à quelqu'un qui vous embauche. Mmh. Mais ça, ce n'est pas une situation que l'humanité a connue de toute éternité. Il y avait des gens, ils avaient une terre, ils cultivaient leur terre, ils mangeaient des fruits et des légumes des bêtes qui étaient dans leur exploitation agricole petite. Ils échangeaient avec d'autres paysans dans le village, etc. Mais on est dans un monde maintenant où l'écrasante majorité des gens ne peuvent pas vivre sans aller vendre leur force de travail à un employeur.
On parle de paysans, là.
Alors, on a tous été paysans jusqu'à il n'y a pas très longtemps, hein, franchement, mm-hmm. Plus ou moins. Mm-hmm. Si tu remontes dans ta généalogie, que tu arrives à ton arrière-grand-père, probablement, et peut-être même avant, il y a des paysans. Parce que le gros de l'humanité cultivait la terre.
Oui, et puis, moi je me rappelle que mon papa devait faire fabriquer son il fabriquait du son propre fabriquait son son beurre.
Ouais, ben voilà.
Voilà alors. Ouais. Oui.
Donc on est tous issus d'un monde paysan plus ou moins il y a longtemps. Et puis, à un moment donné, les paysans se sont appauvris, ou on a saisi leurs terres, etc. Puis ils ont dû aller s'embaucher, hein, ce que Marx a appelé l'accumulation primitive. Les gens n'avaient plus les moyens de vivre avec leurs propres instruments de travail, donc ils se sont mis au service de patrons.
C'est vrai que dans cette période-là, il y avait les ouvriers et ouvrières. Et eux, ils avaient le seul moyen, c'était de fournir du travail. Ils n'avaient pas le droit, en fait, à être patron.
Non,
ils
ne pouvaient pas être patron parce qu'ils ne disposaient pas des moyens de production, ni de la terre, ni de l'usine, ni des machines.
Voilà, c'est ça. Ouais, mais il y a un nom qui définit ça, en fait.
Tu dis qu'ils sont pas propriétaires, ils sont pas propriétaires des moyens de production, tandis que le patron est propriétaire des moyens de production. Donc eux, ils peuvent que vendre leur force de travail.
Voilà,
donc
c'est ce
que Marx a appelé des prolétaires. Ça veut dire
prolétaires, voilà.
Ça veut dire des pauvres.
Voilà. Hein,
parce que prolétaire, ça veut dire essentiellement des pauvres. Même quand tu travailles pas et que tu es au chômage, tu es un prolétaire. Donc c'est pas uniquement l'ouvrier d'usine qui a un boulot. C'est tous les gens qui sont condamnés à vendre leur force de travail ou à être misérable.
Oui. Et on peut revenir un petit peu à la révolution de 1848.
Oui. Bon, alors, il a vécu 48, puisqu'il est né en 18, Marx, il a 25 ans. Et il vit une des plus fantastiques révolutions européennes, qui va mal finir, qui est ce qu'on a appelé le printemps des peuples. Dans plusieurs pays, il y a des soulèvements populaires. Et lui, il croit que c'est un peu arrivé. Il croit qu'on est en train de préparer l'étape suivante, après la révolution qui est en train de se mettre en place, démocratique, etc. Il pense que ça va se prolonger dans une révolution sociale. Et dans le fond, les pronostics qu'on a fait chacun dans notre vie, ils sont révélés des fois un peu optimistes. C'est ça qui pousse d'ailleurs les gens à agir, si on était tout le temps pessimiste. Voilà. Donc, il écrit son manifeste avec Engels et juste au moment où la révolution éclate. Donc c'est vrai qu'ils sont au rendez-vous et puis Marx et Engels vont devenir des inspirateurs pour des cercles significatif de combattants issus de 48.
D'accord. On va faire peut-être une petite pause musicale. Tu nous as choisi la Poesia. Tu peux me le dire parce que moi, je suis nul en anglais, en espagnol et seul en français. Et puis encore en français, je suis pas très bien. Alors.
C'est une chanson, je vais dire en français. La poésie est une arme pour le futur. C'est une chanson qui est tirée d'un poème de Rafael Celaya, qui est un poète espagnol antifranquiste, J'en dirai deux mots après que vous l'ayez écouté.
Ben, on va passer ça de suite et on va revenir sur ce morceau juste après. Merci.
Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo...
Bien, bien, de retour à Radio Sonchaîne avec Jean Batou qui nous parle de Karl Marx. Aujourd'hui, on parle de Karl Marx parce que c'est l'année de ses 200 ans. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as choisi cette chanson ?
Voilà, donc ça a un lien indirect avec Marx. Donc c'est une chanson, je l'ai dit avant, tirée d'une poésie de Raphaël Celaya, un poète anti-franquiste, contre la dictature en Espagne dans après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un gars qui a écrit beaucoup de poèmes et s'est mis en chanson par... comment il s'appelle j'ai un blanc. Bon, peu importe, je vais revenir.
Pas grave, moi j'ai eu un blanc juste avant.
Voilà. bon, l'idée, c'est que la poésie est une arme pour le futur, que les pauvres en ont besoin, qu'ils n'ont pas besoin que de pain, mais qu'ils ont besoin de poésie. Bon, il y avait aussi dans l'histoire du mouvement ouvrier, les femmes qui avaient manifesté pour du pain et des roses. Parce que, quelque part, on a tendance à croire que les luttes, c'est uniquement pour des objectifs matériels. Bien sûr que ça compte.
Ça compte, bien sûr.
Ça compte énormément.
Mais il y a la richesse aussi.
Mais on ne peut pas imaginer que les gens... se battent au péril de leur vie, comme ils le font contre une dictature, par exemple, sans vouloir un autre monde. Et c'est évidemment ça qui est dit dans cette chanson, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement besoin de lutter pour sa condition matérielle, mais on a aussi besoin de lutter pour un monde radicalement différent. C'est l'idée de l'émancipation.
Ouais.
Et Marx était parti de l'idée... On cite toujours la phrase « La religion est l'opium du peuple », mais avant, il a dit « La religion ou la misère religieuse, c'est le sanglot de l'opprimé, c'est le cœur d'un monde sans cœur et c'est l'esprit de conditions de vie sans esprit. » Et donc, il disait « Il ne faut pas lutter contre la religion, il faut lutter contre la misère qui produit l'aliénation religieuse. » Et il faut la remplacer pas seulement par des intérêts matériels immédiats, mais aussi par une sorte de, je vais dire, religion de guillemets, de l'humanité, de la vie.
De croyance.
C'est une espèce d'espoir.
D'espoir. Hein.
Dans l'humanité, dans la vie, etc., qui doit nous animer et qui a une dimension spirituelle au sens noble du terme. Plutôt que, misérablement, croire que tout ça va se passer après notre mort, au paradis, en enfer. Mmh, ou, bon. Non. Les théologiens de la libération en Amérique latine, ils ont pris ça à bras-le-corps et ils ont dit, c'est maintenant et tout de suite qu'il faut créer le paradis sur Terre. Et moi, j'ai visité, par exemple, des camps de travailleurs sans terre au Brésil. Ils font pousser des fleurs. Puis je disais, les fleurs, c'est fondamental pour... c'est des très, très, très pauvres gens qui occupent des terres qui ne sont pas cultivées. Ils m'ont dit, les fleurs, c'est fondamental parce que c'est l'image du monde qu'on veut, etc. Donc,
on s'imaginait qu'ils
planteraient que des patates pour manger. Non, les patates et les fleurs, c'est aussi indispensable.
Ça veut dire que c'est la vie.
C'est la vie, voilà. Et il y a toujours ce mépris des intellectuels ou des petits bourgeois qui pensent que les pauvres, ils en sont tellement misérables qu'ils n'ont qu'une aspiration, c'est avoir quelque chose à croquer. Eh bien non, ils ont besoin d'avoir quelque chose à croquer, mais ils ont besoin aussi donner un sens à leur vie, à leurs enfants.
À leur vie, oui, tout à fait. Et puis, c'est pas donner de l'espoir, en fin de compte.
C'est l'espoir, c'est bien une condition de lutter pour réaliser ses rêves. Mais les rêves, c'est très important.
Mm-hmm. Ah bah oui, on est bien d'accord. On pourrait parler un petit peu, parce qu'il a aussi travaillé pour le New York Tribune.
Voilà, donc Marx, comme il crevait de faim, littéralement.
Oui, parce qu'il me semble qu'à un moment donné, il ne trouvait pas de travail. Hein.
Bon, lui...
C'était très difficile pour lui. Et puis, il devait nourrir, il a eu une troisième fille. Hein.
Voilà, il a eu des enfants, certains sont morts. C'est une tragédie. À l'époque, c'était une tragédie partagée par beaucoup de gens de la classe ouvrière. Mais Marx vivait... très, très, très modestement. Son travail, c'était ce qu'il pouvait gagner en écrivant, donc très peu. Il était aidé par Engels, qui avait un peu plus d'argent.
Oui, c'est juste. Ouais.
Voilà, mais pas tellement, parce que son père ne lui avait pas donné les clés de...
Non, pas encore.
Mais il avait un peu plus d'argent. Oui. Les difficultés financières l'ont amené à écrire un peu des articles pour vivre, mais c'était toujours des articles qui exprimaient ses idées. Donc dans le
New York Tribune,
peu importe. Hein, voilà. Et là, il y a des trucs très intéressants qu'il a écrits sur des sujets d'actualité.
Et après ça, il a fait un retour aux écrits politiques.
Alors oui, il s'est dans le fond le Marx de la maturité, c'est-à-dire disons le gars qui a entre 30 et 50 ans, disons, c'est quelqu'un qui va travailler sur les questions politiques et sur l'économie évidemment. Les questions politiques, il y a la fin de la révolution de 48 en France qui se traduit par la mise en place d'une espèce de dictature, celle de Napoléon III.
Oui.
Et donc là-dessus il va écrire et ça va être un de ses écrits politiques les plus intéressants et il écrira beaucoup plus tard sur la Commune de Paris 1870. Bon, ça c'est les écrits politiques majeurs de Marx, mais essentiellement dans cette période il vit à Londres et il prépare il prépare le Capital. Il écrit des milliers de pages sur son analyse du système capitaliste autour de l'usine anglaise, donc c'est le pays le plus avancé d'Europe, mm-hmm. et il essaye de comprendre comment marche le capitalisme.
On peut parler un petit peu de l'international des travailleurs.
Alors, là, vers les années 1860, commence à se dessiner la possibilité de mettre ensemble des travailleurs de plusieurs pays, des organisations de travailleurs de plusieurs pays, et ça va être l'Association internationale des travailleurs, ce qu'on appelle la Première internationale. Et Marx va mettre cette idée centrale au cœur de cette Première internationale, c'est l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Bon, ça a l'air d'être banal, mais c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que
tu peux dire ça en quelques mots ? Parce que je sais qu'à un moment donné, à une certaine heure, tu devras partir. Alors ouais. Moi, j'aime bien parler avec toi.
Je suis très bavard.
Non, je suis captivé par même subjugué et tout ça. Mais pour faire un petit...
En deux mots, c'est que ce n'est pas le socialisme par en haut. Ce n'est pas des gens qui vont offrir le socialisme clé en main aux travailleurs, c'est les travailleurs qui vont construire par en bas le socialisme, mm-hmm. par leur lutte, par leur imaginaire politique. Et donc, c'est très important de comprendre que Marx a toujours défendu une conception du socialisme par en bas, qui n'a pas toujours été bien illustrée par le socialisme qu'on a connu, soit de la social-démocratie, soit du mouvement communiste.
On va faire une petite pause musicale, mais il y a une petite chose qui m'interpelle, c'est que l'International des travailleurs, tu ne nous as pas choisi dans tes choix musicaux la lutte ouvrière. on va pas en parler pourquoi, mais on va faire une petite pause musicale encore, bien sûr. Et tu nous as choisi un deuxième morceau qui s'appelle... Nosoy.
Ah, non. Ça, c'est Je ne suis pas d'ici, je ne suis pas de là-bas. C'est un chanteur, poète argentin qui vient d'ailleurs, dont la famille venait de Syrie.
Et assassiné, non ?
Qui a été assassiné par la dictature d'Argentine, je crois, en 78 ou 79. Il s'appelle Cafrune. Jorge Cafrune,
oui.
Et ça parle de l'immigration, en fait.
Ah, alors, très bien, on va faire une petite pause musicale, comme j'ai dit juste avant, et on va écouter cette belle chanson.
Sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y la mala señora, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando lloro una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores. Y el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, en mi matungo perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. el sol. Alicia y la paloma, el buen cigarro y la mala señora, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer.
De retour Radio S'enchaîne avec Jean Batou et moi-même Patrice et Sergio à la technique. Le sujet, c'est Karl Marx, c'est ça, hein, Karl Marx. Tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu nous as dit un petit peu avant, mais un petit peu plus par rapport à cette chanson, s'il te plaît.
Oui, donc j'ai voulu un peu vous surprendre parce que, évidemment, vous m'attendiez avec des chansons, des luttes ouvrières.
Oui, c'est ça, un petit peu ce que j'ai dit juste avant. Ouais.
Et j'en connais beaucoup, je les aime beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'elles parlent de la même manière à la jeune génération aujourd'hui qu'elles parlent à nous parce qu'on a été encore en contact avec ces luttes ouvrières. Aujourd'hui, c'est devenu, pour certains, surtout en Suisse, une question un peu d'histoire. Je pense qu'il n'y a pas une question d'histoire du tout, d'ailleurs, au niveau suisse et international. Mais bon, ce Jorge Cafrune, qui est un Argentin assassiné par la dictature dans les années 70, il chante là l'idée que ce pays, qui est un pays d'immigrants, ce sont des gens qui ne sont ni d'ici ni de là-bas, et puis c'est des êtres humains. Donc, ils ont construit une culture métissée de gens qui venaient de différentes régions d'Europe, du Moyen-Orient. Lui, voyez, il venait du Moyen-Orient. Et il dit, j'ai pas de papier d'identité, j'ai pas une identité. Je suis quelqu'un qui aime les filles, qui aime bien manger, qui aime les oiseaux, qui aime... Bon, il décrit en fait une aspiration à être un être humain qu'on ne catégorise pas dans un pays, dans une identité. Et moi, je trouve que c'est assez parlant parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de mettre des frontières, combattre l'immigration... la préférence cantonale pour certains, nationale pour d'autres. Et en fait, on a oublié qu'on est tous des migrants. Quand j'ai dit tout à l'heure, on est tous des paysans, c'est qu'à un moment donné, on a été détachés de nos moyens de production, de notre terre, et puis on a dû suivre, comme les oiseaux migrateurs, le boulot.
Exactement.
Et certains, ils sont partis très loin pour trouver du boulot, d'autres, ils sont restés un peu plus près de leurs origines, mais on est tous les mêmes. Et puis, finalement, ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps disent aux autres qui viennent d'arriver, vous êtes des migrants, mais ils devraient se souvenir de leur propre histoire.
Ça, c'est pas faux. Et puis, tu parles des migrants. Est-ce que tu peux nous... Là, on va parler carrément d'autre chose, mais de Genève. Les migrants de Genève. Parce que c'est quand même important, ces migrants de Genève qui ont construit, on peut dire, Genève. Parce que ce n'est pas des Genevois, ce n'est pas des Suisses en général, c'est quand même des migrants. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces migrants qu'ils ont créé, on peut dire, construit Genève ?
Alors, si on va pas très loin, on va aller dans les années 30, dans l'entre-deux-guerres, où Genève était une ville ouvrière particulièrement dynamique. D'ailleurs, l'origine du Parti du Travail, pardon.
Pas grave.
L'origine du Parti du Travail, ça a été en grande partie le Parti socialiste de gauche de Léon Nicole.
Tout à fait,
oui. Et ce Léon Nicole, il venait justement de la campagne vaudoise. Et dans le fond, il a construit cette gauche ouvrière avec énormément de migrants qui, à l'époque, venaient de Suisse. C'était des paysans qui venaient du canton de Vaud, du Valais, du Jura, de Suisse alémanique, de Fribourg, etc. Et ils n'étaient pas reconnus à Genève. Et si on lit les journaux des années 30, On décrit les « Ah, il y a encore un vélo qui a été volé. Bien sûr, c'est un Neuchâtelois. On a volé des poules. Bien sûr, c'était un Valaisan.
Okay. »
Donc, ce qu'on lit aujourd'hui sur l'immigration étrangère, on la disait des non-Genevois.
D'accord.
Ceci d'autant plus que les Genevois, les vrais, les familles, c'était un patriciat très fermé, protestant, calviniste,
qui habitait
la Haute-Ville.
Oui, c'est juste. Hein.
Je fais un peu schématique.
Non, mais voilà.
Donc, l'immigration, elle est venue de Suisse. À l'époque, par chance, comme ils étaient Suisses, enfin, il y avait aussi des Italiens.
Les Italiens, les Portugais, les Espagnols.
Oui, ils n'étaient pas encore là, les Portugais et les Espagnols. C'était des Italiens dans le bâtiment.
Voilà.
Il y avait aussi des Allemands, mais surtout des Italiens. Alors ceux-là, ils n'avaient pas le droit de vote. Il y avait des Français aussi. Ceux-là, ils n'avaient pas le droit de vote, mais ils étaient bien présents dans les luttes ouvrières du bâtiment.
Mm-hmm.
Ils ont joué un rôle très important dans ce qu'était le mouvement ouvrier genevois de l'époque. Alors je dis autant des Suisses qui étaient des véritables immigrés, mais eux, ils pouvaient voter et puis ils ont donné une force considérable au mouvement ouvrier à l'époque, que les migrants qui n'avaient pas de droit de vote et qui, eux, s'organisaient dans les syndicats.
C'est très bien.
Ils ont fait la Genève populaire.
Voilà, c'est ça, parce que c'est vrai que on vit à Genève, on est d'accord, hein, et on défend quand même les intérêts des citoyennes et citoyens genevois, et c'est vrai que les Italiens ont fait quand même une grande partie de notre Genève, dis pas d'aujourd'hui, mais notre début de notre Genève.
Voilà, moi je vois, je vois Genève comme une région qui donne du travail à, je ne sais pas, 800 000 personnes. Si tu prends tout le bassin de travailleurs qui viennent travailler à Genève, il y en a, ils habitent au-delà de la frontière du canton, dans le canton de Vaud ou en France.
Mm-hmm.
D'ailleurs, ils peuvent être Suisses ou Français ou d'une autre nationalité.
Ah oui.
Moi, ça m'est un peu égal et j'aimerais qu'on ne divise pas tous ces gens-là, mais qu'on les rassemble dans des luttes communes sur leurs droits, sur leurs salaires, sur les prestations sociales, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent quand on construit une frontière, soit sur la couleur du passeport, soit sur le point où tu habites sur le territoire.
Ouais.
Et puis, on s'oppose entre nous, alors qu'on devrait s'opposer au patron qui donne des conditions de travail toujours plus mauvaises
à
tout le monde. Voilà, ça c'est le message plutôt marxiste, prolétaire de tous les pays, unissez-vous.
Voilà, c'est un petit peu ce que Karl Marx a écrit dans ses textes.
Hein. Ouais, il a même écrit de manière très directe sur le fait que les travailleurs irlandais en Angleterre étaient une sous-catégorie de travailleurs, mmh. qu'ils étaient méprisés, qu'il y avait un racisme, y compris dans la classe ouvrière anglaise, contre les Irlandais, et que ça, c'était une arme qu'utilisait le patronat pour diviser les travailleurs. Donc, on peut le généraliser à plein de situations qu'on connaît.
Karl Marx, pourquoi parlons-nous de Karl Marx ? C'est ça qui me... Pourquoi Karl Marx a vraiment touché beaucoup de gens? On en a dit beaucoup là pendant plus de 48 minutes, mais c'est vrai qu'il était pour la lutte des classes, pour la lutte ouvrière et tout ça. Mais c'est vrai que ce personnage... On va pas parler de sa barbe, hein, d'accord, hein, parce qu'on sait qu'il a une barbe depuis son. J'avais entendu quand tu avais interviewé sur une certaine radio. On va pas parler de sa barbe, mais c'est vrai que Karl Marx a beaucoup touché les esprits de beaucoup de gens.
Alors lui, ce qu'il disait, c'est que la chose principale qu'il a apportée, et je crois que c'est pour ça qu'il est très important, c'est une théorie de comment marche l'exploitation dans le système capitaliste. Parce qu'on a tendance à dire « Ouais, moi j'ai un patron, c'est un exploiteur parce qu'on est mal payé. » Ou « Ah, mon patron, c'est pas un exploiteur, il donne des bonnes conditions, etc. » Pour Marx, la question n'était pas une question morale. Il n'y avait pas des bons et des méchants.
Des bons, des mauvais.
Patrons.
Voilà, patron,
ouais. Il y a un mécanisme qui s'est mis en place où une grande partie de l'humanité, la grande majorité, est obligée d'aller trouver un travail, sinon tu crèves de faim. Donc, les conditions auxquelles tu vas travailler sont celles qui te permettent de vivre. Bon, on te donne un salaire, tu vis avec ce salaire. À l'époque, au 19e siècle, c'était un salaire, tu pouvais juste reconstituer ta force pour aller bosser le lendemain.
Oui, bien bon,
aujourd'hui, grâce aux luttes ouvrières, on a des conditions qui sont un peu moins mauvaises, encore que ça dépende du pays.
Aussi.
Le patron, lui, sur ton travail, il fait un profit. Et ce profit, il va être accumulé et c'est l'origine principale de la richesse des classes possédantes dans le système capitaliste. Alors qu'avant, ce détachement de la majorité des gens de leurs moyens de production, essentiellement de leurs terres, avant ça, les gens qui s'enrichissaient, c'était dans le commerce. J'achète, je vends plus cher, ou dans le prêt à intérêt, je te prête de l'argent, prêtait aux États, ils prêtaient à des privés, et ils encaissaient des bénéfices. Bon, donc ce mécanisme d'enrichissement du commerçant ou de l'usurier, il est très visible. Tu dis, attends, il m'a prêté 1000 francs, je lui rends 1500 francs. Il y a 500 francs qu'il a pris parce qu'il avait de l'argent, puis j'en avais pas. Donc c'est très visible. Ou le commerçant qui a acheté moins cher, qui vend plus cher, c'est très visible. Dans le système capitaliste, c'est dissimulé. Parce que toi, tu acceptes un salaire pour travailler, puis le patron, il dit, ah, mais moi, j'ai mis des machines à disposition. Mais ces machines, elles viennent d'où ? C'est du travail, ce que Marx appelait du travail mort, alors que le travailleur, c'est du travail vivant. Oui. C'est toujours du travail qui a été accumulé. Et cette richesse-là, parce que le salaire ne correspond pas à la valeur réelle de ce qui a été produit, est accumulée par la classe capitaliste dans une sorte de mécanisme invisible et naturel, qui n'est pas celui du commerce ou du prêt à intérêt. Et lui, il disait, c'est le missile que j'ai envoyé à la tête des capitalistes, c'est d'avoir expliqué, alors il le fait de manière beaucoup plus détaillée, précise et convaincante que je le fais là, mais il le fait et il dit, c'est ça, il faut comprendre ce que c'est que l'exploitation dans le système capitaliste et la combattre. Et moi, j'ai expliquer ça. C'est le travail du capital et de tous les travaux économiques de Marx, c'est de montrer ça.
En fait, l'exploitation, puis quand le patron dit « Ouais, mais je vais vous donner un salaire parce que j'ai des machines », et moi, je trouve que c'est pas du tout un argument.
Bah, il dit « Écoutez...
sans... » L'ouvrier, il s'en fout qu'il ait les machines. Tant bien qu'il ait les machines, parce que moi, je vais vous fournir mes mains, mes compétences grâce à vos machines, mais j'aimerais quand même avoir un salaire décent.
Voilà, mais il dit, alors, il y a évidemment les machines. Dans les machines, il y a le fait qu'elles s'usent et qu'il faut les réparer, etc.
Voilà, alors okay. Le patron a toujours des sortes d'excuses. Ouais.
Mais ça, c'est intégré dans la théorie de Marx. Il voit bien qu'il y a une partie de ce capital qu'il appelle le capital constant qui va être donc des machines qui va circuler dans la production. Et on peut très bien comprendre que le capitaliste doit racheter des machines, etc. Mais au-delà de ça, il y a une part qui est vraiment le travail non payé qui ne sert pas à reconstituer ce capital constant et qui va être le profit au sens strict du terme que le capitaliste peut utiliser soit pour accroître la taille de son entreprise et donc exploiter encore plus. Général ce qu'il fait parce qu'il y a la logique de la concurrence.
Tout à fait.
Mais en partie, il va l'utiliser pour vivre infiniment mieux que le reste de l'humanité.
Mais il y a aussi d'autres patrons. Je ne nommerai pas où j'ai travaillé pendant 4 ans, parce qu'il n'existe plus. Quand il avait... Quand il avait sur ses finances, comment on appelle ça, un surplus...
Qu'il avait fait un profit,
un bénéfice. Un bénéfice. Ouais. Il le partageait avec ses ouvriers.
Ah non, mais on peut imaginer toutes sortes de choses. On peut imaginer un patron qui partage ses bénéfices. Le problème, c'est que dans le système actuel, il y a la concurrence entre les capitalistes. Et que si tu réinvestis pas pour être à la pointe du progrès, tu vas être éliminé par les autres. Tu as dit que ton patron, il avait disparu. Je sais pas si...
Ouais, bon, on peut dire c'est Eddie Press.
Ouais. Alors, ouais, bon, d'accord. Alors, je sais pas si Eddie Press partageait ses profits.
En tout cas, oui, quand il y avait des bénéfices, on recevait une compensation par une fois par mois.
Alors, c'est une participation. Non,
une fois par année, voilà.
Ouais, c'est une participation aux bénéfices.
Oui, aux bénéfices. Mais quand même, c'était quand même quelque chose.
Oui. Mais très vraisemblablement, une partie du profit était conservée par les actionnaires.
Oui, non, ça, on est bien d'accord. Il y a aussi des actionnaires derrière. Il aurait pu garder tout ça pour sa pomme et les actionnaires.
Oui, mais alors il y a des intéressements. On peut des fois intéresser les travailleurs en versant quelque chose qui est relatif aux bénéfices.
Je te dis sincèrement, c'était pas la carotte pour nous faire travailler parce que nous donnait quand même. Moi, j'étais opérateur régulier, il nous donnait 2500 francs par année quand il faisait les bénéfices. Ouais. Puis nos chefs recevaient plus. C'est quand même important quand même.
D'accord. Voilà. Il faudrait additionner ça au salaire et voir ce que ça représentait par rapport au profit de l'entreprise.
Oui,
je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu une plus-value,
on est bien d'accord.
Mais en gros, ce que Marx t'aurait répondu, c'est un patron qui n'accumule pas de la plus-value pour étendre son entreprise est condamné à disparaître. Donc finalement, ce n'est pas une question de volonté patronale, c'est une question de système. Et c'est un système, alors il y a des patrons qui peuvent être plus généreux que d'autres, mais le système veut que plus tu accumules sur le dos de tes travailleurs, plus tu peux être compétitif et d'ailleurs plus tu peux vivre mieux. Bon, ouais. les vrais capitalistes, ils sont austères, ils investissent. Oui. À l'époque, aujourd'hui...
Là, tu commences à rentrer dans un sujet où qui va peut-être... Continue, qui va me... m'énerver, mais gravement. Mais bon, continue.
Non, mais c'était l'idée du calvinisme. C'est-à-dire, tu dois travailler, tu dois investir, c'est la cigale et la fourmi. Voilà. Donc, c'est une morale qui s'imposait aussi à certains capitalistes.
Oui, oui. Mais c'est pas contre toi, je disais ça. Hein,
qui veulent faire du fric, bien sûr, mais pour l'investir... Parce que comme ça, ils réalisent les desseins de Dieu qui est de... etc., etc. Ça, c'est la logique calviniste de l'esprit du capitalisme.
Mais tu es d'accord que normalement, dans la bonne chose et dans l'idéalisme que moi je me fais et que beaucoup de gens se font, ce serait quand même que le patron ou les patrons, patronnes, je ne sais pas, mais un patron, encourage leur employé à quand même être... performant, mais à les enthousiasmer à aller au travail. Parce que moi, je ne veux pas là rentrer dans ce sujet-là parce que je vais vraiment m'énerver puis je ne veux pas donner de nom parce que là, je connais quelqu'un qui est en train de m'entendre en ce moment.
Je vois voilà, ce que tu parles.
On en a juste parlé un petit peu avant. Et c'est vrai que c'est, en gros, il y en a qui sont vraiment, c'est tu bosses, si tu ne bosses pas, ben, tu crèves ou bien tu te casses. Et qu'est-ce que tu en penses ? Bon, c'est vraiment hallucinant où on en est, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. Je dis pas qu'il y en a totalement de ça, mais il y en a beaucoup d'entreprises. C'est, vous n'êtes pas content. Allez, tant que vous n'êtes pas en burn-out, parce que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment, en burn-out, alors on vous force même à aller en burn-out ou partir de votre emploi, de votre place de travail. Et après, partez, parce que derrière, là, on en a 200 qui sont en train de...
Exactement. Exactement.
Mais c'est hallucinant. Monde qui est comme ça maintenant.
C'est simplement parce qu'on revient aux règles plus classiques du capitalisme. Il y en a qui disent qu'on reva vers un pur capitalisme parce qu'on a vécu, surtout ma génération, dans les années 60-70, on a vécu, quand j'ai ouvert les yeux sur la réalité sociale, on vivait dans un monde où il y avait des conquêtes qui avaient été obtenues par les travailleurs. Et ces conquêtes, elles s'incarnaient dans des droits. Mmh. Et ces droits, dans le système capitaliste, ils sont fragiles. Si tu ne les défends pas, bec et ongles, ils s'effondrent. Et on est dans une période d'effondrement de ces droits. Le chômage monte. On te dit, si tu n'es pas d'accord, tire-toi, j'engage quelqu'un d'autre.
C'est ça.
Les contrats ne sont plus des contrats pour beaucoup de durée indéterminée. C'est des contrats hein, où tu peux te faire foutre dehors.
Ouais. On arrive un petit peu au système américain.
On arrive au système américain, et le système américain, ben, c'est un capitalisme plus classique qui n'a pas été infléchi aussi fortement qu'en Europe par les luttes ouvrières. Et donc, on revient vers un capitalisme révoltant. C'est pour ça que tu es énervé.
Oui, complètement.
Et les travailleurs, je t'assure, qui vivent ces conditions-là, sont de plus en plus énervés. Et ça va se manifester par des explosions sociales. Ça se manifeste déjà par des explosions sociales. Il faut juste répondre à la colère par un horizon qui soit différent que... les patrons doivent être plus... Alors, bien sûr, au début, il faudra cadrer, obtenir des conditions, des droits, etc. Mais la perspective, ça serait que la société, ça soit les producteurs associés. C'est-à-dire, il y avait l'idée des coopératives.
Oui,
il y avait l'idée,
oui, voilà. Juste, tout à fait.
Il faut se débarrasser de l'idée que sans les patrons, on ne peut rien faire. Au contraire, en s'associant et en créant un monde où, dans le fond, les choix principaux... où on investit le travail, où on investit les ressources matérielles, ça soit des choix démocratiques, décentralisés, centralisés pour certaines questions qui concernent des grandes régions ou l'humanité, mais décentralisés, démocratiques. Et ça, c'est le socialisme, au sens noble du terme. Oui, parce que le socialisme, on ne sait plus ce que ça veut dire. Mais le socialisme au sens noble du terme, et ça, c'est notre horizon. Et ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir demain. Mais on doit savoir vers où on marche pour savoir comment on marche. Et tu as raison, commencer par exiger des droits aux vacances, des droits aux prestations sociales, des droits à un salaire décent, c'est le début de la solidarité ouvrière qui permettra de faire les pas suivants.
Mais il y a beaucoup... c'est par rapport à l'exemple que je t'ai donné qu'on ne va pas évoquer, mais dans cette entreprise, ils ont peur... Ils ont peur, ils ont tous peur de se révolter. Je ne dis pas une révolte, mais ont peur de dire non, nous ne sommes pas d'accord. Et y a beaucoup de gens qui partent en burn-out, ils ont des problèmes de dos. Mais c'est affolant. Ça, c'est un cas que j'ai expliqué un petit peu avant. Et je suis révolté par ça.
Mais la peur, elle est humaine.
Oui,
elle est humaine. Imagine que tu as un emploi, tu as des gosses. Moi, j'ai aussi un cas à l'esprit. il se passe quelque chose de scandaleux. Il y a l'idée, est-ce qu'on va faire grève ou pas? Et puis, il y a une femme qui dit, moi, j'ai deux gosses, je suis seul, si je me fais vider, etc. Tout ça, c'est tout à fait compréhensible. Il ne faut
bien
pas
sûr.
Jeter la pierre aux gens qui ont peur, qu'ils ont des raisons d'avoir peur.
Je suis d'accord avec toi.
Parmi eux, il y en a...
Pourquoi ils ne s'assemblent pas entre eux?
Je crois qu'il y a des moments où il y a quelqu'un d'un peu plus courageux qui dit non. Et cette personne un peu plus courageuse qui dit non, elle va provoquer, pas toujours, mais parfois, des solidarités. Les gens vont se mettre à lutter. Et ces petites luttes vont construire une conscience qu'on ne travaille pas que pour sa pomme, mais qu'on travaille collectivement à un monde différent. Et ça, c'est vraiment à reconstruire aujourd'hui. On est dans une situation où le capitalisme a avancé depuis 30 ans. Nous, quand j'ai dit au début, on est une génération qui a été battue, parce que l'esprit qui avait amené à ces conquêtes, il était déjà perdu. Et donc, les gens croyaient que c'était éternel, qu'on vivait dans un monde. Non, le capitalisme a reconquis du terrain.
Exactement.
Et maintenant, il faut redéployer cette solidarité à partir de l'expérience, à partir des entreprises, à partir aussi des quartiers, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas employés puis qui s'activent aussi. Mmh. Et puis, les plus courageux, il y en a toujours. Ils vont faire des pas en avance, souvent les plus jeunes, les plus écervelés ceux qui ont le plus raison d'être révoltés. Et ils vont des fois se faire taper dessus, ils vont être battus. Ça va éveiller la conscience d'autres, etc. C'est un long processus.
Ça, c'est juste.
Voilà.
Et c'est vrai que ça ne va pas changer du jour au lendemain. on va bientôt arriver au terme de cette émission, mais j'aimerais juste venir. Il y a eu un conflit entre Marx et Bakounine.
Bakounine.
Est-ce qu'on peut venir un petit peu là-dessus?
C'est un peu difficile de le faire très court. Bakounine est connu comme le père de l'anarchisme. Bon, c'est un des théoriciens de l'anarchie, il y en a d'autres. Mm-hmm. Il critiquait Marx pour sa vision autoritaire. En réalité, moi, je suis convaincu que Marx n'était pas un autoritaire. C'est un type qui a toujours défendu le socialisme par l'auto-émancipation des travailleurs.
Exactement.
Mais pour Bakounine, Marx avait au sein de cette association internationale des travailleurs qui était la Première Internationale, avait des méthodes de direction qui étaient des méthodes autoritaires. Bon, c'est un débat, hein, c'est un débat. Mmh. Moi, je crois qu'on se trompe. Je pense qu'on peut faire les mêmes critiques à Bakounine dans ses organisations à lui. Il avait toujours un noyau dirigeant qui était assez autoritaire. Ce que je pense surtout, c'est que dans la lutte, parfois, les gens s'organisent, ils sont des minorités. Et quand on est dans le combat, parfois, la discipline collective, quand on est, il faut imaginer une guerre. À un moment donné, quand ça chauffe, la discipline collective est importante. Alors, il faut trouver l'équilibre entre la démocratie, le droit, y compris des individus d'être pas d'accord, des groupes d'être pas d'accord, et les moments où il faut agir ensemble. Et ça, c'est une très grosse difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, à cause des expériences qu'on a eues dans l'histoire de la gauche, on doit valoriser énormément la démocratie, la conviction sur les mécanismes d'autorité. Mais il ne faut pas négliger qu'il y a certains moments, par exemple dans une grève, où un piquet de grève se met dans l'entreprise, puis on ne laisse pas entrer ceux qui veulent travailler. Pourquoi ? Parce qu'il faut être collectif. Et si on laisse entrer ceux qui veulent travailler, on les laisse détruire le mouvement de grève. Moi, j'avais une grand-mère qui était une femme qui a travaillé toute sa vie en usine, qui était veuve, qui avait ses deux enfants éduqués. Le piquet de grève la laissait rentrer en disant « Cette dame, elle n'a pas le choix ».
C'était
à Neuchâtel, à ouais. La Favague, qui est une usine.
Ben moi, ça m'est arrivé quand j'étais chez Edipresse. Quand j'ai commencé chez Edipresse, il y a eu un piquet de grève et on m'a laissé quand même travailler parce que vu que je commençais, pour pas que j'aie des problèmes.
Voilà. Donc le piquet de grève peut avoir des raisonnements sur les travailleurs. Par contre, quand il y a quelqu'un qui a tout à fait les moyens d'être dans la grève et qui ne la fait pas, ben, y a un rapport de force qui se construit pour que le collectif qui est en grève soit pas miné de l'intérieur par des gens qui travaillent. Donc, je dis ça parce que la démocratie, c'est fondamental dans nos mouvements, mais il y a des moments de lutte où il faut serrer les rangs.
Bon, on arrive bientôt au terme de cette émission, Jean Bateau. Je vais quand même te laisser juste avant le dernier morceau que tu nous as choisi. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu peux nous dire à nos auditeurs sur Karl Marx et sur sa vision de ses écrits et ta vision à toi?
Je crois qu'il faut toujours regarder le monde avec les yeux des opprimés, en particulier des plus opprimés, pas seulement des exploités, mais de ceux qui sont encore considérés comme les plus déclassé parmi les exploités, parce que c'est pour ça d'ailleurs que souvent le regard des femmes va plus loin que le regard des hommes, parce qu'elles subissent une oppression supplémentaire.
On a eu le 8 mars, hein, voilà. La révolution des femmes, on est bien d'accord.
Alors moi, je crois que c'est très important de toujours se souvenir de ça et de jamais être méprisant vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas toujours les mots pour le dire, mais qui vit des situations d'exploitation et d'oppression plus dures que la moyenne. Et c'est la raison pour laquelle, pour conclure, j'ai choisi cette chanson de la grande chanteuse de jazz, Billie Holiday, qui s'appelle Strange Fruit. Et c'était une chanson pour dénoncer le lynchage des Noirs aux États-Unis, puisqu'il y a eu environ, on pense, allez, 4000, 3000, 4000, 5000 personnes qui ont été lynchées, c'est-à-dire que c'est des gens qui étaient accusés par les Blancs, par la Vox Populi, d'avoir, je sais pas, s'être intéressé à une femme blanche, d'avoir volé quelque chose, etc. Mmh. Ils n'avaient pas droit à un procès avec un défenseur, etc. Et ils étaient tués, pendus par la foule. C'est ce qu'on appelait le lynchage. Et elle a écrit « Strange Fruit », ça veut dire c'est ces étranges fruits qui pendent aux arbres. Et en fait, c'est les corps des Noirs qu'on pendait sans autre forme de procès. Et donc, cette...
Qui a réellement existé.
Le pic de ça, c'était entre 1880 et 1930, mais ça existait juste dans les années 50. Et après, il y a des formes actuellement de discrimination des Noirs qui sont extrêmement violentes aux États-Unis, l'emprisonnement de masse, etc., etc. Mais je le dis parce que Marx a été conscient, et dans certains de ses écrits, il a parlé des Noirs aux États-Unis, parce que c'est toujours à travers les plus opprimés que, disons, on peut unifier les combats de la classe large des travailleurs. Parce que si on les oublie, pour ne parler que de la couche supérieure, on va dans le mur. Voilà.
Ben avant juste de finir cette émission et sur cette chanson, est-ce que tu aurais quand même un petit mot d'espoir ?
Oui.
Quelques mots, s'il te plaît, parce que j'ai envie de faire une émission avec toi deux heures.
Je vais te le faire sérieux. Très très simple. Il y avait un petit mot d'espoir, communiste italien assez connu qui s'appelle Gramsci et qui disait « Nous devons avoir... l'optimisme de la volonté, même si nous avons le pessimisme de la raison. » Et en fait, s'engager, c'est avoir l'optimisme de la volonté. C'est-à-dire penser qu'on va vers un monde meilleur. Et même si on ne l'atteint pas, on va rencontrer dans la lutte des personnalités tellement exceptionnelles qu'on va enrichir sa vie. Et moi, je pense que c'est ça le sens de l'optimisme, de la volonté. Il y a des gens dans des conditions totalement désespérées, ils ont continué à lutter. Mmh. Et c'est ceux-là qui ouvrent les portes vers un avenir meilleur, parce qu'ils ne se désespèrent jamais.
En tout cas, je te remercie infiniment d'être venu dans nos locaux de la radio sans chaîne, Jean Batou.
Mais merci de m'avoir invité.
Parce que c'est vrai que tu vas dans d'autres grandes radios, mais là, franchement, je te remercie infiniment. Et on va finir sur cette belle musique que tu nous as concoctée.
Donc, Strange Fruit avec Billie Holiday.
Et puis, bonne journée à toi et au revoir à tous les auditeurs et les auditrices, auditeurs, et à Sergio à la technique. Et
merci à Sergio.
Voilà, et vous pouvez me retrouver tous les jeudis à partir de 11h avec d'autres sujets. Et on va finir avec cette belle chanson. Merci Jean Batou. À bientôt.
Merci à toi.
Ciao, ciao.
Southern trees, they're strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck. for the rain together. For the wind to suck. For the sun to rock. For the tree to drop. Here is a strange and bitter cry.